François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. Les 300 ans du château de Delémont ont été célébrés comme il se doit. Les festivités prennent fin ce soir après deux week-ends de réjouissance. Le succès a été au rendez-vous. Pierre Rotet emmène le lecteur au cœur d'une conspiration au Vatican. Le nouveau roman du Jurassien vient de sortir. Il s'intitule « Meurtre au Vatican, la conspiration, l'Amérique latine en otage ». En football, le FC Courtetel a subi un revers à domicile cet après-midi dans le championnat de Première Ligue. Les Vadé ont perdu 2-0 face à Bézabienne. Météo, du soleil demain matin, mais il faudra compter avec des nuages dans l'après-midi et peut-être quelques averses. Les températures resteront fraîches, il fera entre 11 et 15 degrés maximum demain. Le rideau s'apprête à tomber sur les 300 ans du château de Delémont. Le tricentenaire de l'édifice a été célébré ce week-end, ainsi que le précédent. Les festivités comprenaient des visites guidées, un spectacle son et lumière, des concerts, des expositions ou encore des visites avec des guides en herbe, soit des élèves de l'école primaire du château. Une association avait été mise en place pour organiser et coordonner les événements. Elle avait également pour tâche de fédérer les différents acteurs impliqués dans le projet. Le succès populaire a été au rendez-vous, comme l'explique le secrétaire de l'association des 300 ans du château de Delémont, Dominique Kaufmann.
Oui, on est vraiment, vraiment hyper content du bilan après ces deux week-ends. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre avant cet événement. Mais là, en ayant fait le tour des partenaires, en ayant vu le monde sur place, c'est vrai que c'est un bilan hyper positif. Et on a vu que la population était aussi attachée à ce château.
Plusieurs milliers de personnes, selon des estimations, mais selon des chiffres plus précis, en tout cas 2000 personnes uniquement pour les visites guidées par l'association des guides, aussi par les guides en herbe. C'est quand même un succès assez fort et qui signifie quelque chose.
Oui, exactement. Donc, il y a eu un intérêt vraiment fort par rapport aux visites guidées. On voit que les gens apprécient cette démarche, ces actions-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de visites qui ont dû être doublées avec les guides. Enfin, les guides ont fait un travail assez extraordinaire aussi sur les deux week-ends. Donc voilà, on voit qu'il y a de la demande et puis on est satisfait d'avoir pu offrir ça à la population, découvrir ce bâtiment avec des anecdotes, d'autres choses également. Donc, pour nous, c'était vraiment positif.
Est-ce que vous avez l'impression que quelque part les Delémontins se sont appropriés ou réappropriés ce bâtiment historique qui est certes une école? Beaucoup de Delémontins y ont usé leur fond de culotte, mais on connaît peut-être mal l'histoire de ce bâtiment.
Oui, je pense que les gens sont appropriés de par effectivement les personnes qui étaient à l'école, donc ça a ravivé des souvenirs, des odeurs, enfin des lieux. Il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et puis d'autre part, par rapport aux personnes qui n'étaient jamais venues, qui ont pu découvrir ce bâtiment, je pense qu'il y a eu un vrai intérêt. Et puis aussi, on a fait venir un public différent dans des lieux, je pense au SAS par exemple. Donc voilà, c'était tout bénéfique pour les acteurs qui nous ont suivis dans ce projet et qui ont participé à cette manifestation.
Et face au succès, les organisateurs ont décidé d'organiser deux sessions supplémentaires pour le spectacle Son et Lumière qui auront lieu ce soir à 21h et à 21h30. Pierre Rotet plonge ses lecteurs dans un complot autour de l'Église catholique. L'ancien journaliste et écrivain jurassien publie un septième ouvrage intitulé « Meurtre au Vatican, la conspiration, l'Amérique latine en otage ». Il propose une fiction qui s'inspire du décès du pape Jean-Paul Ier en 1978 et de l'affaire Tornet en 1998, du nom de ce garde suisse du pape qui était accusé par le Vatican d'avoir tué son commandant et l'épouse de celui-ci avant de se suicider. Pierre Rotet a imaginé un lien entre tous ces décès. L'histoire commence par l'assassinat du pape Jean-Paul Ier, à peine un mois après son entrée en fonction. Pierre Rotet.
Il fallait choisir un successeur au pape Paul VI. L'Amérique latine, à l'époque, elle était en ébullition. Les mouvements de rébellion, la théologie de la libération qui faisait peur au mouvement charismatique conservateur, ultra-conservateur de l'extrême droite catholique. Et ils ont pensé pouvoir mettre quelqu'un de dur pour remettre l'Église au milieu du village. Et c'est un troisième homme qui a surgi, Jean-Paul Ier, et qui a été assassiné dans mon livre. Au bout de 33 jours.
Le livre « Meurtre au Vatican, la conspiration, l'Amérique latine en otage » est publié aux éditions La Cathédrale. Le président du centre, Gerhard Pfister, critique les discussions lancées par le Conseil fédéral sur la base d'un rapport d'experts destiné à réaliser des économies dans le budget de l'État. Il regrette également que les spécialistes aient négligé les mesures qui auraient permis de dégager des recettes supplémentaires via l'impôt. Gerhard Pfister s'est exprimé en ce sens dans Le Matin Dimanche et a dénoncé un rapport unilatéral. La tarte aux pruneaux, c'est un peu l'emblème du lundi du jeûne fédéral qui a lieu demain. Le jour est férié dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel ou encore dans une partie du Jura bernois. Le jeûne fédéral qui se tient aujourd'hui a été décrété pour toute la Suisse au XIXe siècle. Il s'agissait d'un moyen de consolider la paix entre les religions au lendemain de la guerre du Sonderbund qui a mené à la création de l'État fédéral. Le théologien et journaliste Cédric Nemitz explique pourquoi la tarte aux pruneaux symbolise le jeûne fédéral.
La tarte aux pruneaux, c'est un petit peu le fruit de 16 ans au moment du jeûne fédéral. Et comme l'idée de se priver qui permet la solidarité, on ne peut pas se priver totalement de manger. Donc on s'est dit, on ne fait pas bonbance, mais on utilise les stocks de pruneaux à cette occasion-là. Et donc, on se dit qu'on mange des gâteaux, des tartes aux pruneaux pour le jeûne fédéral. Et ce qu'on économise en ayant mangé les pruneaux, on peut le consacrer à la solidarité avec ceux qui ont moins de chance que nous.
C'est un peu ça le principe du jeûne, hein. On économise pour donner ensuite.
Oui, on économise pour prendre conscience de la chance qu'on a. Dans l'histoire, c'était on avait échappé à des guerres ou à des fléaux. Aujourd'hui, on peut prendre la Suisse. Le jour du jeûne, prend conscience de sa situation privilégiée, la chance qu'on a de vivre en paix, en prospérité. Et puis, l'autre dimension, c'est faire un geste de solidarité pour ceux qui ont moins de chance que nous.
Des propos recueillis par Raphaël Girardin. La 20e édition du Festival du film français d'Helvétie se termine avec succès à Bienne. 20 000 festivaliers ont visionné 62 films dans 4 salles prévues pour l'événement. Le festival dédié au 7e art français et francophone a séduit une large audience, également pendant l'open air gratuit mis sur pied pour les 20 ans. À l'heure du bilan, Christian Kellenberger, cofondateur et directeur du FFFH, confie son sentiment.
Le bilan chiffré nous réjouit extrêmement puisque nous avons atteint cette barre des 20 000 festivaliers qui était un objectif depuis les débuts. Ensuite, ce n'est pas un objectif final dans le sens que nous sommes conscients. C'était la 20e édition, nous avons présenté plus de films, nous avions beaucoup plus d'invités, donc aussi plus de podiums qui ont très très bien fonctionné. Et donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a atteint ces 20 000 que nous les retrouverons à l'avenir. Ce n'est pas non plus ce que l'on cherche. La croissance à tout prix ne fait pas partie de l'objectif principal du FFFH.
Et quel était votre plus beau moment durant cette 20e édition ?
Bah écoutez, je pense que l'un des plus beaux moments, c'est forcément d'avoir pu mener la cérémonie d'ouverture devant M. Daniel Auteuil, parce qu'il y avait une certaine pression, mais ça m'a fait aussi extrêmement plaisir qu'il prenne le temps de découvrir ce festival par sa cérémonie. Et puis, le deuxième moment que je garderai en souvenir, c'est ce moment avec Arnaud Desplechin, qui est un homme qui nous aime beaucoup. Il adore Bienne, et ça s'est vu aussi. Et très sincèrement, il est tellement expérimenté que les discussions ont été tellement passionnantes, ça restera aussi gravé dans ma mémoire.
Enfin, à l'étranger, pluie torrentielle, inondations spectaculaires et meurtrières, évacuations par milliers. La tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale. Son bilan s'est alourdi ce dimanche à au moins 7 morts et plusieurs disparus. République tchèque, Slovaquie, Pologne ou encore Roumanie, la tempête a provoqué dans ces pays des coupures massives d'électricité, des ruptures du réseau de transport public et des évacuations massives d'habitants.
Sport.
L'actualité sportive avec vous, Nicolas Meusy, en football. Le FC Courtetel peut s'en vouloir.
Et il a perdu 2-0 cet après-midi à domicile contre Bézabienne en Première Ligue. Les Vadais ont pourtant joué plus d'une demi-heure à 11 contre 10, mais ils se sont fait punir en contre-attaque après deux pertes de balles grossières à mi-terrain à la 77e, puis dans le temps supplémentaire. Courtetel n'a jamais trouvé la solution contre Béza. Sous un beau soleil, mais sur une pelouse en souffrance, le milieu du FCC Nathan Ducommun.
C'est compliqué déjà le terrain. Pour moi, c'était un terrain pas digne d'un terrain de Première Ligue. Je suis désolé de le dire, c'est pour les deux équipes évidemment. Après voilà, c'est vrai que chaque match, on y a le même problème. On a des occasions, on les marque pas. Et eux, on va dire qu'ils en ont une. Ça pardonne pas, on fait deux erreurs défensives. Et après, on va dire que le dernier but, c'est limite anecdotique vu qu'il restait 30 secondes. Mais c'est dommage parce qu'on était quand même 11 contre 10 pendant 30 minutes et là on doit tuer le match. Je pense qu'il a manqué aussi un peu de tranchant, de croire un peu plus en nous et vraiment d'y aller franco. Je pense qu'on n'a pas assez, on va dire, tout cassé dans les duels comme le faisait. Il nous a vraiment manqué peut-être un peu de grinta et d'impact physique. À 0-0 en premier temps, on a une occasion, ça devrait faire 1-0 et je pense qu'on a des équipes comme ça. Je veux pas dire qu'on peut dérouler, mais on peut vraiment les déranger si on met le premier but.
Et au classement, Courtetel recule à la 5e place et compte 5 points de retard sur le leader Schotz que les Vadais affronteront dimanche prochain. En deuxième ligue interrégionale, Ajoie Monterrey renversé en fin de match. Le FCAM a perdu 3-1 contre Pratteln cet après-midi à Courgenay. Les Ajoulots ont ouvert le score à l'heure de jeu avant de concéder 3 buts dans les 20 dernières minutes. Ajoie Monterrey recule à la 10e place du classement avec seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation. Le tenant du titre sorti en Coupe de Suisse, Servette, a été éliminé en 16e de finale de la compétition cet après-midi. Les Genevois ont été battus 2-1 par Schaffhouz, pensionnaire de Challenge League. Arau, lui, est qualifié en dominant Lucerne 1-0 et Bellazone passe aussi en venant à bout de la 2e Ligue Inter de Gambarago 2-1. Steve Gerda remet le couvert. Comme l'an dernier, le cavalier jurassien a remporté la finale de la Coupe de Suisse de saut d'obstacle. Sur sa jument Easy Star, le Vadet a signé un double sans faute et a devancé autant le Bernois Elian Baumann. Le Neuchâtelois Brian Balziger complète le podium. La compétition a été organisée aujourd'hui dans le cadre du CSI d'Ascona. Arnaud Tendon en avait encore sous la pédale. Le cycliste de basse-cour a remporté le Tour du Jura aujourd'hui à Montsevelier. 2 jours après sa course au championnat d'Europe des moins de 23 ans en Belgique, le Vadet a attaqué à 200 mètres de l'arrivée pour devancer les Français Mathéo Constant et Sam Maisonneuve. Il a parcouru les 121 km en un peu moins de 3 heures. Les dames, elles, ont parcouru 88 km et la victoire est allée à la Saint-Galloise Nicole Souter en un peu plus de 2h30 devant l'Allemagne de Lena Moisescu et la grisonne Alia Pfiffner. Tim Merlier sur le toit de l'Europe, le Belge est devenu aujourd'hui champion européen de cyclisme sur route à Hasselt. Sur ses terres, le coureur a devancé au sprint le néerlandais Olav Koij et l'estonien Madis Mikkels après 223 km de course en Belgique. Une petite récolte pour Grégoire Saucy au Japon. Le pilote jurassien et ses deux coéquipiers du team britannique United Autosport ont pris aujourd'hui le 20e rang des 6 heures de Fuji, l'avant-dernière course de la saison du championnat du monde d'endurance en catégorie LMGT3. Au volant de sa McLaren, l'habitant de basse-cour a réussi à engranger 4 points pour figurer à la 11e place du classement général des pilotes avec 40 unités au compteur. La dernière épreuve de la saison aura lieu le 31 octobre à Bahreïn. Et puis McLaren fait coup double en Formule 1. Son pilote Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan devant la Ferrari de Charles Leclerc et la Mercedes de George Russell. Grâce à sa victoire et la 4e place de Lando Norris, l'écurie britannique a même réussi à prendre la tête du classement des constructeurs au détriment de Red Bull avec Max Verstappen 5e et Sergio Perez qui s'est accroché avec Carlos Sainz en toute fin de course.